Le Liban croyait avoir tout connu, tout enduré, tout, la guerre, longtemps, l'instabilité politique, les assassinats, la corruption de ses dirigeants et dernièrement cette double peine, la faillite du pays par temps de coronavirus. Le Liban en avait déjà beaucoup vu, mais avant-hier, l'apocalypse s'est invité à Beyrouth. Dans Culture Média, ce matin, nous sommes avec des artistes libanais. Ils sont nés au Liban, ont grandi à Beyrouth et forcément, leurs créations se nourrissent de toutes ces cicatrices. Mais quand une ville devient gravat, que les victimes se comptent par milliers, morts et blessés, que la quasi-totalité de ses habitants n'a plus de toit, que la pénurie alimentaire guette, que la pauvreté est déjà là, que peut bien la culture. Bonjour à vous, Johanna Hadji Thomas.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Beyrouth où vous vivez la moitié du temps avec votre mari, Khalil Jeresh, que je salue aussi. Bonjour Khalil.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux des artistes très renommés, cinéastes, vidéastes, photographes, plasticiens. Vos travaux sont présentés dans le monde entier. Johanna, comment vous sentez-vous ce matin au surlendemain de cette explosion qui a ravagé la ville? Quel mot pour décrire votre état?
La sidération.
Toujours?
Toujours. Et on arrive très mal à vivre ce choc, en fait. D'abord parce que nous l'avons vécu physiquement et que nous avons encore les séquelles de cette explosion qui était inouïe. Et ensuite parce que l'ampleur des dégâts est tellement incroyable qu'on ne sait pas très bien par où commencer.
Mmh. Vous avez été blessé vous-même?
Non, j'ai pas été blessée. J'étais dans un café à la rue Jemaisé et j'ai entendu une sorte d'avion. Donc je me suis retournée, recroquevillée, parce que ça m'a un peu rappelé certains bruits qu'on entendait pendant la guerre et l'explosion a eu lieu. J'ai miraculeusement rien eu. Mais après, on sort dans la rue et on est comme dans un film apocalyptique, un film catastrophe et... On est hébété.
Khalil Jeresh, votre atelier a été complètement détruit et bon, fort heureusement, vous n'y étiez pas. Est-ce que la colère fait aussi partie de votre ressenti?
C'est pas de la colère encore, c'est de l'hébétement, dans le sens où nos sentiments sont très complexes.
Je crois que nous avons un problème de ligne avec Khalil. Est-ce que Johanna, vous êtes là?
Oui, je suis là. Je vais dire à Khalil de venir vers moi.
D'accord.
Oui, en fait, la rage, moi je suis très en colère.
Oui.
En même temps. Mais ce sont des sentiments qui sont complexes. Vous voyez, on n'arrive pas à comprendre déjà. Il faut, dans un premier temps, réaliser ce qui s'est passé. C'est tellement gigantesque. Ensuite, il y a une colère qui gronde en nous depuis déjà très longtemps, et là, elle arrive à son paroxysme parce que c'est voilà, ça ne se passe pas comme ça, une explosion. On se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui a pu la provoquer. On a beaucoup d'entre nous ont entendu un avion. On ne sait pas, on comprend pas. Oui, c'est compliqué.
Ah, vous voulez dire que la thèse accidentelle n'est pas la seule possible, c'est ça que vous êtes
je
en train de dire?
Pas, je ne sais rien. Mm-hmm. Moi, je ne sais rien. Je dis simplement que sur la rue de Jemaisé, où on était, beaucoup d'entre nous, on a entendu un avion ou une sorte de grondement qui ressemblait à un avion. Donc, on se pose aussi beaucoup de questions.
Restez en ligne s'il vous plaît. Je salue aussi, toujours en direct de Beyrouth, la romancière, essayiste et journaliste Carole Daguerre. Bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez régulièrement sur votre pays. Vous êtes notamment l'auteur d'une trilogie sur le Liban moderne. Vous aussi, Carole Daguerre, vous êtes à ce stade toujours sidérée, abasourdie?
Oui, absolument, certainement. Je suis là en visite pour voir ma mère qui est malade. Et donc, dans notre appartement, on est à Chrafiel, l'appartement de ma mère a été à moitié soufflé. C'était quelque chose... Moi, je suis une enfant de la guerre, j'ai grandi pendant la guerre. Donc, les bombes, les mortiers, les voitures piégées, je connais. Toute ma génération a vécu ça. Mais ce que nous avons eu il y a 2 jours, jamais connu. C'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement, le tremblement de terre, explosion apocalyptique. Les dégâts qui ont eu lieu dans notre rue et dans toute la région d'Ashrafieh n'ont jamais eu lieu pendant la guerre. Donc on est effectivement hébété. Il y a la colère et puis beaucoup de questionnements sur les responsabilités. Et au-delà, moi qui ai beaucoup écrit en tant que journaliste et essayiste politique sur le système libanais, je suis en colère pas seulement contre les non-dirigeants qui sont au pouvoir, mais contre nous-mêmes en tant que peuple, pour essayer de comprendre comment une société aussi créative, aussi dynamique, aussi extraordinaire par l'apport artistique, culturel, intellectuel, a pu laisser arriver au pouvoir des gens aussi incompétents et aussi irresponsables. Mmh. C'est une question qui se pose pour des intellectuels et pour des penseurs. Et pour toute la société.
Effectivement, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de questions et beaucoup, beaucoup de sentiments qui se bousculent. Restez là, s'il vous plaît, Carole, Johanna, Khalil. On revient, on va parler de votre pays, évidemment, tel qu'il vous inspire aussi, qu'il vous permet d'écrire, de créer, malgré tout, malgré les plaies et les cicatrices. Nous marquons une petite pause, à tout de suite. Nous sommes en direct de Beyrouth avec des artistes, Carole Deguerre qui est essayiste, romancière, elle écrit sur son pays, le Liban, Johanna Hadji et Khalil Jorej qui sont tous deux artistes, artistes totaux, des films, des installations, des œuvres inspirées par le Liban. Vous êtes là, Johanna ?
Oui, je suis là.
Je voulais qu'on parle de cette image terrible, cette seconde explosion qu'a ravagé votre ville, Beyrouth, cette boule de feu et de produits toxiques. Qui voyez-vous c'est la métaphore de quoi, finalement?
Je ne sais pas si c'est une métaphore de quelque chose. Je pense que c'est surtout une catastrophe extraordinaire qui s'est abattue encore sur le Liban. Pour le moment, c'est très compliqué de projeter quelque chose, vous voyez, métaphorique mm-hmm. sur tout ça. Je crois que c'est le moment de beaucoup de questionnements, beaucoup de peut-être un peu. Quand je suis d'accord avec Carole, il y a beaucoup d'autocritiques qui devront être faites, mais pour le moment, c'est surtout on est en état d'urgence absolue. Mm-hmm. C'est-à-dire, il faut qu'on aille d'abord déblayer nos maisons, nous, notre appartement, notre atelier, tout a été soufflé. Mais après ça, il faut aller aider les gens. Il y a 300 000 habitations qui ont été soufflées, donc détruites partiellement ou totalement. Donc, je crois que là, pour le moment, on est tous un peu dans un état d'urgence. Il faut aider, il faut comprendre un peu comment on va se réorganiser pour des questions de survie déjà. Et puis après, on verra bien. Vous voyez, ça, je pense qu'il y a plusieurs étapes et que il faut aussi gérer le traumatisme. C'est quand même une explosion. Comme disait Carole, on n'a jamais connu ça. Moi, j'ai vécu toute la guerre mm-hmm. du Liban. Je n'ai jamais vu ça. Donc, et on dit que c'est la troisième plus grosse explosion au monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça y ressemble. Et on a besoin d'aussi c'est un trauma pour beaucoup. Il faudra aussi à un moment l'adresser. Après, bien sûr, il y aura les questions d'autocritique, de politique qui viendront ou qui se mêleront dans qui sont déjà là et qui, pour moi, pour le moment, c'est surtout un état d'urgence humanitaire.
Exactement, on en est là pour l'instant puisqu'il y a encore des gens à sauver, des disparus, il y a encore des blessés dans les hôpitaux qui probablement manquent de tout, et puis effectivement ces gens à la rue, vous constatez une solidarité maximum quand même, Johanna ?
Je constate une solidarité formidable, en tout cas autour de moi, dans la rue où je vis. C'est une rue qui était totalement dévastée, et les gens sont là, ils nettoient la rue, des volontaires donnent à boire aux gens, essayent de les aider, des jeunes, des gens de partout viennent spontanément pour aider. Donc ça pour moi, c'est aussi très symbolique d'un certain Liban solidaire, qui peut-être aura beaucoup à faire pour se débarrasser de certains de ses leaders. Mais en tout cas, il y a une solidarité qu'il faudra vraiment préserver pour notre temps de révolte, parce qu'il va venir. Encore.
On va revenir à la révolte, évidemment, quand elle arrivera. Parmi les nombreux dégâts et les lieux de culture frappés, il y a le Sursok Musée d'Art Moderne. Nous sommes en ligne avec sa directrice, Zena Arida. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous répondre, Zena Arida. Étiez-vous dans votre musée pendant l'explosion ?
Oui, j'étais là avec trois collègues. Heureusement, on était en train de fermer le musée, donc il était 18h15. Il n'y avait plus de visiteurs, plus de médiateurs culturels, plus de sécurité. Heureusement, parce que le musée a été réellement soufflé. Et mes collègues et moi, on a eu beaucoup de chance, parce que moi aussi, j'ai entendu un bruit que j'ai trouvé très suspect, très effrayant, qui était un bruit vraiment subtil. Comme Jeanne, je fais partie de la génération de la guerre, je sais reconnaître tout genre d'objets volatiles qui nous ont attaqués dans le passé. Et j'ai cru reconnaître un avion différent. Et donc, ça nous a un peu sauvés parce que j'ai demandé à mes collègues de s'éloigner. On s'est éloigné des fenêtres et 20 secondes après, on était soufflés, poussés dans les escaliers. On a eu beaucoup de chance parce que le musée est soufflé des deux côtés.
Mmh. On va revenir sur les dégâts du musée, mais Zena, qu'est-ce que vous entendez par un avion différent ?
Je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas, j'ai beau lire et les gens ont beau me dire que c'est un accident et qu'il n'y a pas eu d'attaque et que je ne sais pas, je n'arrive pas à oublier le bruit que j'ai entendu qui ne ressemble à aucun bruit, qui ressemble à un objet volant. Est-ce que c'est, j'en sais rien. Encore une fois, c'est très difficile à dire, hein. Je ne veux pas me prononcer,
oui,
mais
sûr.
Moi, je ne peux pas croire à un pur accident.
Est-ce que des œuvres sont endommagées dans votre musée ? Il y a beaucoup de dégâts ?
Il y a beaucoup de dégâts. Vous savez, le musée est en partie abrité par une maison des années début du XXe siècle. C'est un bâtiment classé. Il est maintenant un squelette. C'est-à-dire qu'il y a la pierre, mais il n'y a plus rien d'autre, ni les vitraux, ni les portes, ni les cloisons intérieures. Certaines ont sauté. Les cages d'escalier ajoutées dans la rénovation, donc métal, vert. C'est un squelette.
Zena Arida, on va s'arrêter là. On reprendra des nouvelles les jours prochains de votre musée parce que c'est très important, évidemment, toutes ces œuvres endommagées et puis vous-même, évidemment, votre intégrité morale et physique. On continue à parler du Liban en direct de Beyrouth dans Culture Média. À tout de suite, ne quittez pas. Toujours en ligne avec Carole Daguerre. On vous avait perdu un instant, mais on vient de vous retrouver. Vous êtes romancière, essayiste. Nous parlions avec Johanna Hadji Thomas de ce sens de la solidarité parce que c'est très très important. Évidemment, 300 000 personnes qui n'ont plus d'abri. Vous la voyez autour de vous, cette solidarité, Carole Daguerre ?
Ah oui, certainement. Cette solidarité, elle est presque dans les gènes, je dirais, des Libanais. C'est elle qui a permis au peuple libanais de traverser les années sombres de la guerre. C'est elle qui leur permet à tous les coups de remonter, de déblayer les rues, de reconstruire en l'absence d'un État qui est de soutien gouvernementaux, de programmes de solidarité ou de soutien, de reconstruction, etc. C'est une société qui est extraordinaire, qui ne mérite pas le non-État, enfin l'État de non-droit dans lequel elle vit.
Oui, c'est ça, on a l'impression
que... Oui, il y a des mouvements, des associations, des ONG qui se mettent en place, puis il y a cet esprit, cette culture de la fraternité spontanée, de l'entraide. Elle est extraordinaire, c'est elle qui sauve le Liban.
Mmh. Quand on pense... Là, ce sont les faits, mais les faits sont signifiants. Quand on pense à ces tonnes de nitrate d'ammonium qui sont stockées depuis 6 ans, me semble-t-il, dans le port, des matières dangereuses, etc. Est-ce que ça en dit long sur la négligence et sur l'incurie des hommes politiques au Liban ?
Ben oui, cette explosion, je pense qu'elle est vraiment, elle résume tout. Il n'y a plus de mots pour décrire les abysses dans lesquels les Libanais n'ont pas arrêté de plonger depuis plusieurs années. Il y a eu la crise des détritus il y a 3 ans, 4 ans. Puis, d'année en année, la révolution l'année passée, en octobre, avec la crise économique et monétaire, et puis cette explosion qui vient couronner le tout. C'est vraiment un processus et on a l'impression à chaque fois que c'est un peu Sisyphe. Il faut remonter la pente, pousser le rocher jusqu'au bout et à chaque fois le rocher retombe et chaque fois il retombe plus bas qu'avant. Et à chaque fois il y a un mouvement qui doit se remettre en place et c'est des générations qui ont à chacun leur lot d'épreuves. Une génération s'épuise, une autre prend la relève. Il y a ceux qui partent, qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont perdu des proches ou parce qu'ils ont perdu leur maison ou leur travail. Et puis il y a la relève. Et on a l'impression que la relève est là pour endurer les nouvelles épreuves et non pas pour reconstruire un État au plein sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est désespérant. Ça, on se dit, quand est-ce qu'on va enfin retrousser les manches pour reconstruire un État avec des institutions dignes de ce nom? Et voilà. Et moi, je voudrais, en tant que binationale, parce que je suis née au Liban, mais j'ai embrassé la nationalité française, qui est dans ma culture, qui, enfin, pour moi, la France et le Liban sont les deux faces de mon identité. Je voudrais remercier la France et dire combien sa présence, son soutien, toujours indéfectible à tous les moments cruciaux de la vie du Liban, combien cette présence est vitale et combien elle est importante pour les Libanais, toujours à travers notre histoire. Et voilà, donc c'est un pays, il faut le savoir, hein, c'est l'un des derniers pays où la dignité humaine est encore défendue avec ses droits sociaux, politiques, humains. Et le Liban a voulu calquer ses institutions, son État, sur la Constitution et les institutions françaises. Nous avons pris les institutions, mais on en a fait une coquille vide. L'esprit des lois si cher à Montesquieu n'est pas encore là.
Carole Daguerre, vous évoquiez il y a un instant la renaissance éternelle de ce pays est obligatoire. On va écouter aussi le sentiment du trompettiste Ibrahim Malouf, joint par Julien Cottreau. Il est évidemment sur cette même ligne, celle d'une résilience obligatoire.
Je ne sais pas comment les Libanais vont se relever, mais ce qui est certain, et je le vois depuis tellement longtemps, le Liban est un pays très résilient, qui a toujours su se construire et se reconstruire à travers le temps et à travers les drames. Selon moi, il n'y a pas d'autre espoir à avoir que celui d'accepter la cicatrice comme à chaque fois. Je me souviens de 2006, je me souviens de 2004, je me souviens de tout ce qui a rythmé mon enfance et l'enfance de mes parents jusqu'aujourd'hui, l'enfance de mes grands-parents jusqu'aujourd'hui, etc. Et ce sont des drames qui se s'enchaînent et qui sont liés à cette position du pays qui est, en tout cas, semble être définitivement vouée à une instabilité qui est évidemment liée aux intérêts divergents de tout ce qui nous entoure, en fait, de tous les pays qui nous entourent.
Johanna Hadji Thomas, vous venez d'entendre avec nous Ibrahim Malouf. On a le sentiment que le peuple libanais est condamné à cette résilience obligatoire parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Qu'en pensez-vous?
Je ne peux pas m'y résoudre, en fait. Je pense même que la résilience est une chose exceptionnelle et très caractéristique du peuple libanais. On en parle beaucoup, mais elle ne doit pas être celle qui nous empêche à un moment de dire « maintenant, ça suffit ». C'est-à-dire, c'est comme on retombe toujours sur nos pieds, c'est vrai, on a une énergie, on a continuellement des façons de nous soutenir, de nous aider, d'être solidaires, de reconstruire. Ça a été pendant la guerre notre grande force d'une certaine façon, mais peut-être qu'à un moment aussi, il faut que ça s'arrête. Et il faut qu'on se dise qu'il faut que des choses changent profondément. Ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de subir. Ce n'est pas une malédiction. Et je pense beaucoup, depuis quelques jours, avec Rallye, nous avons fait une vidéo très récemment qu'on a montrée dans une exposition en Corse, au FRAC. Et je pense à ce poème de Seferis qui illustrait cette vidéo. Un poème de Georges Seferis. Harris, où il disait, en clôture du poème, « Nous avons trouvé la cendre, il ne nous reste qu'à retrouver notre vie maintenant que nous n'avons plus rien. » Et moi, je pense qu'il faut que nous reprenions notre vie à toutes ces personnes qui, depuis trop longtemps, nous manquent continuellement de respect à notre dignité humaine, surtout. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus admissible.
Alors effectivement, Johanna Hadji-Thomas et Rally Le Jaurès, je précise que vous avez une exposition en cours en Corse, hein, à Corte, au FRAC Corsica, et son titre, voilà, ça s'appelle « J'ai regardé si fixement la beauté ». Peut-être bien que la beauté est une réponse. Johanna, en octobre dernier, c'est pas si loin, bon évidemment, c'était avant le coronavirus, mais il y avait eu cette réaction collective, cette révolution au Liban, il y avait de l'espoir quand même à l'époque, et est-ce que ça peut revenir? Bon, c'est beaucoup trop tôt, on est bien d'accord, il va falloir d'abord soigner ce pays, il y a des urgences comme vous le disiez, mais est-ce que cette révolution peut renaître?
Elle est pratiquement obligatoire, je pense. Il faut absolument qu'elle revienne. Bien sûr, ça va être difficile. On a, comme vous disiez, il y a le corona, il y a aussi la fatigue, une fatigue extrême. Les gens s'occupent surtout de savoir comment ils vont pouvoir manger et pour faire fonctionner leur famille. Donc on est dans des problématiques très très différentes, mais je crois qu'elle est obligatoire. C'était un élan extraordinaire. Et cet élan doit retrouver, renaître de ses cendres, et il faut qu'il... Il y a toujours, en fait, je dis cendres, mais en fait c'est faux, il y a toujours cette volonté et cette colère chez les gens. Il faut juste qu'on arrive à se rassembler et qu'on arrive à se regrouper. Je pense que quand on aura légèrement penser nos plaies, quand on aura nettoyé devant nos portes et enlevé les gravats, les vitres, ces tonnes de vitres qu'il y a dans toute la ville, je crois qu'à ce moment-là, on va se diriger dans la rue, se retrouver dans la rue, et je sais, ça va être obligatoire, notre colère est trop forte.
Mm-hmm. Pour terminer, Carole Daguerre, vous savez que le président français Emmanuel Macron est dans l'avion en ce moment, qui l'amène à Beyrouth, je crois qu'il atterrira heure locale vers midi, midi et demi. Ça vous touche qu'ils viennent?
Ça me touche beaucoup, oui. Comme je le disais, la France a toujours été présente aux côtés du Liban. Vous savez que cette année 2020 marque l'année du centenaire de la création de l'État du Grand Liban, enfin de la proclamation de l'État du Grand Liban par la France, par le général Gouraud. Et il y avait beaucoup de conférences, de festivités, d'événements qui allaient marquer ce centenaire. J'ai moi-même sorti mon dernier roman, L'invité des Médicis, pour remonter à la source de ce rêve qu'est le Liban, cet idéal, avec le prince du Liban, Farhadine II. C'est un rêve et un idéal qui est encore à concrétiser, parce que cette année du centenaire, en fait, le bilan est un état d'échec, un état failli. Et donc, et la France n'a cessé de répéter « faites des réformes, faites des réformes, nous sommes là pour vous soutenir ». Et cette volonté manque toujours. Or, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons à nouveau nous questionner sur comment reconstruire cet état, un état de droit.
Encore et encore.
Et je pense que la France est aux premières loges pour nous aider, à condition que nous nous aidions. Et là, nous avons un rôle, évidemment, en tant que société civile, en tant que créateur, et une réflexion à faire sur le système. Est-ce que le système libanais a produit une telle incompétence, une telle corruption, ou est-ce que ce sont les hommes qui ont pourri le système?
Eh oui, large question, effectivement, large interrogation. Merci beaucoup Carole Daguerre d'avoir témoigné. Je remercie aussi énormément Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais la ligne n'était pas très bonne. Je remercie aussi Zena Arida, qui dirige le Sursoc, le musée d'art moderne. Peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler. On vous envoie en tout cas toutes nos pensées et du courage et de la force. Merci à vous. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 et c'est le moment de Benjamin Biolay, Comment est ta peine ?